3.
Chaque fois que Sean vous peint, il vous vole quelque chose qu'il ne vous rend jamais, affirma Pénélope en buvant une nouvelle gorgée de vodka. Assis face à elle, Gaspard demeurait circonspect. Il vous arrache votre beauté pour la mettre dans ses tableaux, insista-t-elle. Vous vous souvenez de l'histoire du portrait de Dorian Gray?
Le portrait qui vieillissait à la place de son modèle.
Eh bien, avec Sean, c'était le contraire. Sa peinture était cannibale, elle se nourrissait de votre vie et de votre éclat, elle vous tuait pour pouvoir exister.
Pendant plusieurs instants, Pénélope continua à développer cette idée avec une certaine hargne. Gaspard ne l'écoutait plus. Il pensait à la célèbre citation de Serge Gainsbourg. « La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le temps. » De nouveau, cette question. Par quel engrenage cette femme en était-elle arrivée là? Madeleine lui avait dit que Sean avait rencontré Pénélope à Manhattan en 1992 et qu'elle avait à l'époque seulement 18 ans. Il fit un rapide calcul mental. Son interlocutrice avait aujourd'hui 42 ans, le même âge que lui. Rue du Cherche-Midi, il y avait peu de clichés de Pénélope, mais Gaspard se souvenait précisément d'un, datant de la naissance de Julian. En contemplant la photo, il avait trouvé Pénélope resplendissante. Les ravages de la chirurgie esthétique étaient donc récents.
Au bout de quelques années, Sean a quand même fini par comprendre que son génie n'était pas tributaire de ma petite personne. Alors j'ai eu peur de le perdre, bien sûr. Ma propre carrière était en train de s'étioler. Pour fuir mon spleen, j'ai commencé à prendre plus d'alcool et de dope que de raison. Joint, cocaïne, héroïne, cachet. Une façon d'obliger Sean à s'occuper de moi. 10 fois, il m'a conduite en désintox. Il faut vous dire que Sean avait un gros défaut. Et une faiblesse, en fait. C'était un mec bien.
Je ne vois pas en quoi c'est une faiblesse.
Pourtant, c'en est une. Mais c'est un autre débat. Bref, il n'a jamais eu le courage de m'abandonner. Parce qu'il pensait qu'il avait envers moi une dette éternelle. Sean était un peu taré. Ou plutôt, il avait sa propre logique.
Les yeux de Gaspard avaient quitté le visage de Pénélope pour s'attarder sur une cicatrice en forme d'étoile qui lui griffait le côté droit du cou. Puis il s'aperçut qu'elle avait une deuxième balafre, presque symétrique, sous l'oreille gauche. Et puis encore une troisième, à la naissance de la poitrine. En une seconde, il comprit. Ces cicatrices n'étaient pas des marques laissées par des opérations médicales, mais des séquelles de l'agression au fil de fer barbelé dont Pénélope avait été victime lors de son enlèvement. Dès lors, une conviction s'ancra dans sa tête. C'était après la mort de son fils que Pénélope était entrée dans le cercle vicieux de la chirurgie. D'abord, probablement pour réparer les lésions consécutives à l'agression, puis après, sans doute, comme une sorte de pénitence. Sean n'était pas le seul à avoir suivi un chemin de croix. Sa femme l'avait accompagné sur la voie de l'autodestruction. Elle avait voulu souffrir par là où elle avait péché. La beauté.
La naissance de votre fils ne vous a pas rapproché? Cet enfant, ça a été un miracle. La promesse d'un nouveau départ. Au début, j'ai voulu y croire, mais c'était une illusion. Pourquoi? Justement parce que plus rien d'autre n'existait aux yeux de Sean, ni la peinture, ni moi. Seul Julian comptait.
À l'évocation de son fils, Pénélope sembla sombrer dans une léthargie hypnotique.
Gaspard essaya de la retenir. « Si vous me permettez une dernière question. » « Allez-vous-en. »
« Madame, juste une... »«
Dégagez !»
cria-t-elle comme si elle se réveillait en sursaut.
« Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois ?»
Elle soupira. Son regard se perdit de nouveau à la recherche de ses souvenirs.
« La dernière fois, c'était... » Le jour de sa mort, quelques minutes seulement avant sa mort, Sean était à New York. Il m'a appelé d'une cabine téléphonique de l'Upper East Side. Il tenait des propos incohérents. À cause du décalage horaire, il m'a réveillé en pleine nuit.
Pourquoi vous appelait-il?
Je ne m'en souviens plus.
Le visage défait, elle pleurait. Il insista.
S'il vous plaît, faites un effort. Que vous a-t-il dit? Laissez-moi!
Son cri la fit retomber dans le brouillard. Immobile, prostrée sur son canapé blanc, elle s'était déconnectée de la réalité. le regard torve, comme terrassé. Prenant conscience de la situation, Gaspard fut saisi par un abîme de honte. Que faisait-il ici, lui, à torturer cette femme dont l'histoire n'était pas la sienne? Quel était le sens de sa quête? Il s'éclipsa en silence. Dans l'ascenseur, il se dit que Godard avait raison. L'art est comme un incendie. Il naît de ce qu'il brûle. L'histoire funeste des Lorenz était jalonnée de cadavres, de fantômes, de morts vivants, de destins fauchés, brûlés, carbonisés par le feu de la passion et de la création. L'art est un incendie qui naît de ceux qu'il brûle. 4. Jean-Michel Fayolle n'eut pas à chercher longtemps dans sa mémoire. Après une longue absence, Sean est revenu fréquemment au magasin dans les deux derniers mois de sa vie. C'était il y a un peu plus d'un an, en novembre et décembre 2015. Il était en chasse. Il chassait quoi ? Demanda Madeleine un peu perdue. Les couleurs, bien sûr. Donc, d'après vous, il s'était remis à peindre ? Fayolle ricana. C'est une évidence, et je donnerais cher pour savoir ce qu'il avait en tête. Pour quelle raison ? D'abord parce qu'il était obsédé par le blanc. La couleur blanche ? Le Rasta acquiesça et se fit lyrique. Ouais, la couleur des spectres et des fantômes, celle de la lumière primale et de l'éblouissement, de la pureté de la neige, de l'innocence, de la virginité. La couleur totale qui à elle seule symbolise aussi bien la vie que la mort. Il cherchait quel type de blanc ? Justement, au début, il tâtonnait et ses demandes étaient contradictoires. C'était tantôt mat, tantôt brillant, tantôt lisse, tantôt rugueux, tantôt proche de la craie, puis des reflets métalliques. Je m'y perdais. Il était défoncé ou il avait les idées claires ? Le marchand de couleurs fronça les sourcils. Je dirais plutôt qu'il était exalté, comme s'il avait été bouleversé par quelque chose. Ils étaient revenus près du comptoir. Quelques gouttes de pluie tambourinèrent sur les vitres. Sean me parlait tout le temps des pigments minéraux blancs, mais ils ont le défaut de s'étioler et de devenir transparents dès qu'on les mélange à un liant. J'étais désolé de ne pas pouvoir l'aider. Finalement, je lui ai proposé de partir sur un Gofun Shirayuki. Un blanc japonais ? Hasarda-t-elle ? Ouais, un pigment blanc nacré, couleur de perle, qui est fabriqué à partir de coquilles d'huîtres. Sean a essayé de travailler avec, mais il est revenu quelque temps plus tard en me disant que ce n'était pas ce qu'il cherchait, et que ce n'était pas avec cette couleur qu'il parviendrait à représenter ce qu'il avait en tête. Cette expression m'a surpris, d'ailleurs. Pourquoi ? Les artistes comme Sean ne cherchent pas à représenter. Ils présentent. Ils ne dépeignent pas, ils peignent, pour reprendre une expression de Soulage. Pourtant là, j'avais l'impression que Sean avait en tête quelque chose de précis, mais que cette chose-là n'existait tout simplement pas dans la réalité. Il ne vous a pas dit quoi ? Fayolle grimaça avec un geste d'ignorance. Madeleine le relança. Et finalement, vous êtes parvenu à lui trouver une couleur ? Bien sûr, répondit-il tout sourire. Je lui ai bricolé un pigment à base d'un extrait de gypse atypique que l'on ne trouve qu'à un seul endroit. Où ça ? Fier comme Artaban, Fayolle prit un air mystérieux. White Sands, ça vous dit quelque chose ? Madeleine réfléchit quelques secondes jusqu'à ce qu'une vision traverse son esprit. Des dunes blanches, étincelantes, argentées, qui s'étendaient à perte de vue. L'un des plus beaux parcs nationaux américains. Le désert du Nouveau-Mexique ? Le Rasta approuva de la tête. Là où est implantée une base militaire dans laquelle l'armée teste des armes et des technologies secrètes. C'est sur ces terrains que se trouve une carrière de gypse très rare. Un minerai altéré d'où on peut extraire un pigment assez résistant. Une sorte de blanc-gris avec des reflets roses. Si la pierre est sur la base militaire, comment avez-vous pu y avoir accès ? Ça, c'est mon petit secret. Vous en avez un échantillon ? Fayolle se retourna vers ses étagères pour saisir un flacon en verre soufflé. Madeleine en observa le contenu, d'abord avec excitation, puis avec une once de déception. Les pigments ressemblaient à de simples copeaux de craie. Concrètement, pour peindre, on va mélanger ça avec de l'huile.
De l'huile ou n'importe quel liant, ouais.
Perplexe, Madeline récupéra son casque sur le comptoir et remercia Fayol de son aide. Alors que le Rasta s'avançait pour lui ouvrir la porte, il marqua une pause, semblant se souvenir de quelque chose.
Sean m'avait aussi demandé de lui trouver des pigments phosphorescents de très bonne qualité. Ça m'avait étonné parce que c'est un peu gadget, ces trucs.
C'est quoi exactement? Des pigments qui emmagasinent la lumière?
Ouais, pour la restituer en brillant dans l'obscurité. Autrefois, les industriels utilisaient du radium pour produire ces peintures qu'on trouvait notamment sur les tableaux de bord des avions.
Bonjour la radioactivité.
Fayol approuva. Plus tard, on a utilisé du sulfure de zinc, mais ça restait peu efficace et ça se détériorait rapidement.
Et aujourd'hui?
Maintenant, on utilise des cristaux d'aluminate de strontium, non radioactifs et non toxiques.
C'est ça que cherchait Lorenz?
Ouais, mais là encore, Sean m'a retoqué tous mes pigments. Comme je ne comprenais pas ce qu'il voulait, je l'ai mis en relation avec une entreprise suisse qui fabrique une pâte lumineuse utilisée dans la haute horlogerie pour les montres de plongée. Les gars ont été réactifs, mais je ne sais pas si Sean a fait affaire avec eux.
Madeline nota à tout hasard le nom de la société suisse et remercia de nouveau le coloriste. Lorsqu'elle sortit quai Voltaire, la nuit était presque tombée. La pluie ne faisait plus semblant et des nuages denses comme des fumées noirâtres fondaient sur la Seine en crue et le Louvre. Tourbillon de poussière soulevé par la charge de cavaliers hostiles. Sur sa Vespa, elle repartit en direction du pont Royal pour rejoindre Saint-Germain et retrouver son ami. Le grondement du tonnerre la fit sursauter. Dans le ciel zébré d'éclairs, il lui sembla apercevoir la figure anguleuse de Sean Lorenz. Un visage contrarié, presque christique, qui ruisselait d'une lumière blanche.